France Culture.
À voix nue, une série de Sylvie Goudbaron avec Marc Held. Je voudrais revenir un instant sur ce que j'ai appelé hier les années Culbuto. Pour bien comprendre l'articulation entre ces années design et votre retour à l'architecture. Mais peut-être d'abord convient-il de définir le mot architecte selon vous.
Architecte. Maintenant que je vis en Grèce et que je parle un peu le grec, je vais évoquer l'étymologie. Architecte, en grec, c'est architektonas, constructeur en chef. Constructeur en chef, ça veut dire maître de toute la construction. Or, ce que je constate ou ce que j'ai constaté lorsque j'ai quitté Paris, c'est que ce rôle du maître de la construction, du maître d'œuvre, est progressivement abandonné dans la pratique. Je vois que les agences, d'abord submergées de boulot, parce qu'il faut rentrer du boulot pour payer l'équipe, etc., etc., font le projet, le confient à un bureau d'études qui lui-même le sous-traite. Et lorsqu'on travaille pour des promoteurs, je l'ai fait pour le dernier projet de ma vie, la tour IBM à la Défense, c'est qu'en fin de compte, l'architecte est négligé, méprisé même. J'ai assisté à une scène emblématique. Réunion de chantier pour la tour Descartes, siège d'IBM. 60 personnes, il est 7h30 du matin, entreprise, sous-traitant, ingénieur, et les deux ingénieurs du promoteur, et moi, qu'on avait littéralement imposé, que je représentais les intérêts de la compagnie. Et mes deux confrères lèvent le doigt et demandent la parole au représentant de la maîtrise d'ouvrage. Et on voudrait poser une question technique, et le type leur répond. Alors, mais écoutez, faites-nous de beaux dessins, on s'occupe du reste. Et je crois que malheureusement, la profession en est là. Alors, il y a quelques années, les promoteurs demandaient aux architectes de tirer le meilleur parti des surfaces pour créer le plus grand nombre de surfaces à vendre. Maintenant, l'ordinateur fait mieux qu'eux. Alors, ils faisaient des beaux dessins, mais maintenant, l'ordinateur, l'intelligence artificielle, elle fait encore mieux qu'eux. Donc, je crois que c'est une profession qui a malheureusement perdu son autorité, qu'on se contente du spectacle, l'architecture spectacle, faire une chose qui va scandaliser, étonner. J'entendais l'autre jour, je dirais pas son nom, disant, moi, ce que j'attends des spectateurs de mon architecture, c'est qu'ils fassent « Ah ». Ça veut dire quoi, « Ah » ? Alors que l'architecture, c'est fait pour servir. C'est fait pour les gens qui vont l'occuper, pour qu'ils soient bien, qu'ils soient heureux. C'est pas pour faire du scandale médiatique.
Donc, entre les années 1970 et la fin des années 80, c'est un succès phénoménal, Marc Held. Vous réalisez aussi bien des services de porcelaine pour Coquet qu'un modèle pour Renault, un petit peu l'ancêtre de l'espace. Le lit monocoque pour Prise Unique, deux montres pour LIP, des tenues de sport, de ski. Vous travaillez pour des agences de publicité, dont Rousseguela et l'Intas. Vous participez à la rénovation du paquebot de croisière, le Mermoz. On va vite retrouver votre goût pour les fils de tension et le filet de pêche tendu comme une métaphore du vélum que vous avez installé le plus souvent possible dans vos constructions. Suivent la construction de trois bateaux, le Windstar, Windsong et Windspirit. Quelques maisons en France, en Haute-Corse et le centre, la Lande pour IBM, à Montpellier, que vous avez déjà évoqué lors d'une émission précédente. Succès étant, vous allez même travailler pour l'Élysée. En 1983, vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça se passe, la réponse à Mitterrand ?
Bon, je crois que le succès médiatique de mon confrère Paulin, qui avait dessiné les meubles pour Pompidou, avait engagé Lang de faire de l'appartement présidentiel à l'Élysée encore une sorte de manifestation du design français. Donc, il lance une sorte de consultation, il sélectionne 5 concepteurs, dont moi, pour restaurer l'appartement présidentiel. Alors, on y va. L'appartement présidentiel, lorsqu'on l'a découvert, c'était celui qu'avait occupé Giscard d'Estaing. Ça ressemblait à la salle d'attente d'un médecin de province des années 50. Grande tristesse. Donc on nous donne le programme, on rencontre François Mitterrand, Madame Mitterrand, et chacun reçoit une pièce à traiter. Moi, j'étais le plus âgé à l'époque, le plus connu, plus encore que Stark qui démarrait, et on me confie le grand salon, et on me donne le programme. Donc ce serait une partie salle à manger, une partie salon, une partie bibliothèque, etc. Et je commence à travailler, comme j'étais, encore une fois, le plus expérimenté, l'adjoint de Jacques Lang, du pavillon formation d'architecte, me dit « Écoute, établis-nous un budget prévisionnel. » Hein, d'accord. Alors je me renseigne combien ça coûte, le mètre carré, pour la partie sol, mur, plafond, l'eau technique, c'est tant. Et j'établis un budget prévisionnel. Et puis, nous nous montrons plus ou moins nos projets, chacun. L'un fait la chambre, l'autre la chambre numéro 2. Et tout à coup, je me dis « Mais... les Grecs sont partis dans des dépenses extravagantes. » Alors, bien, rien n'avait été dit sur le sujet. Donc on continue à travailler, et je rencontre Madame Mitterrand dans les couloirs, qui me dit « Alors, comment ça se passe ?» Je dis « Écoutez, j'ai une inquiétude. Je crois que si le projet n'a pas été explicite sur la dépense, nous allons être critiqués, le président sera critiqué, et nous aussi. » Alors, il dit « Faites-moi une note. » Je fais une note. Le lendemain, motard de la police... réunion cet après-midi avec le président. Il y a une réunion houleuse. Certains des collègues se sont crus comme ça attaqués un peu dans leur talent. C'était pas ça. C'est le programme qui était défaillant. Et donc le président, après une longue réunion, dit très bien. Revoyez vos copies. Et le lendemain, on est convoqué par son chef de cabinet, je crois, monsieur. Je ne sais quoi. Il vaut mieux pas se souvenir de son nom. Et on est là, tous les cinq, l'architecte du bâtiment, bien sûr, c'est comme ça, et il dit, bon, brutalement, vous me faites des devis pour demain, etc., etc. Et donc, l'un des collègues dit, oui, mais vous savez, on a commencé à étudier, faire des études avec les artisans, les petites boîtes, ils n'ont pas touché un sou, et le haut fonctionnaire dit, mais il devrait être content, il devrait travailler gratuitement. Et moi, je me lève, imprudent, en disant « Quoi ? Quoi ? Sous une présidence socialiste, s'entendent des choses pareilles ?» L'architecte du bâtiment me tirait par ma veste. L'homme était dangereux. Et on a fait des devis qui ont été évidemment largement dépassés. Et on a fini par faire ce projet. Et comme je l'avais prévu, la presse d'extrême droite, Minute, ont... titré en première page des milliards ou des millions pour décorer l'Élysée, mais je pense que François Mitterrand, ça lui était égal.
Est-ce que c'est dans ce projet précis que vous travaillez en vous inspirant du violoncelle le Guarnieri?
Le bon côté de cette opération, c'est que nous disposions de moyens exceptionnels, comme... dont on disposera demain. Moi, j'ai pu travailler avec des compagnons du Tour de France, et c'était expérimental. C'était la belle histoire. Pas de déco, mural, j'ai tout peint en blanc, j'ai restauré ce qui était un peu abîmé, mais c'était l'occasion de pouvoir vraiment faire du travail de recherche, et j'ai toujours été tout à fait intéressé, sinon fasciné, par les instruments à cordes. Un de mes très grands amis, le violoncelliste Wolfgang Böttcher, avait un Guarnieri, et les courbes de ces instruments sont merveilleuses, la matière est merveilleuse en dehors du son, bien entendu, et c'était pour moi l'occasion de travailler sur des surfaces non développables, des bombées, pour le simplifier, et de concevoir du mobilier avec cette technologie. Et j'ai eu la chance de travailler avec à la fois de grands ébénistes, luthiers, maintenant l'un est devenu luthier, et j'ai pu faire fabriquer avec eux le secrétaire de Madame Mitterrand et une série de dessertes qui sont d'une esthétique inhabituelle de par la technique adoptée, qui sont très belles matières, très 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 beaux, je crois. Je les aime toujours.
Et d'une certaine manière, vous faisiez de l'architecture musicale, puisque la musique vous est très très chère.
Un hommage à mon ami Wolfgang Böttcher.
Exactement. Donc là, nous sommes dans les années Mitterrand. Et puis, il va y avoir un point de bascule, qui est le dernier projet IBM. Et vous allez tout quitter. Et vous allez partir en Grèce.
Oui, alors, Oui, j'étais devenu d'une façon vraiment inattendue l'archevêque d'IBM en France en prenant la succession de Marcel Breuer. Et voilà que IBM, qui construisait donc cette fameuse tour Descartes, m'impose de rentrer dans l'équipe d'architectes du promoteur et d'être honoré par le promoteur. Et là, j'assiste alors au pire, la caricature vraiment des promoteurs d'aujourd'hui, les marchés se signent dans les couloirs, de bouche à oreille, les commissions, et les architectes méprisés, en fin de compte. Moi, j'étais protégé par IBM, ils n'osaient pas trop m'attaquer directement, mais vraiment, l'architecte considéré comme vraiment à la portion congrue. Et mon agence, qui était une petite agence des 6-8, tout à coup monte à 38 personnes et on fait un boulot qui n'était pas très intéressant. Et au bout d'un moment, se pose la question, est-ce que je grossis encore, comme toujours, comme les artisans, les petites boîtes, plus on prend de boulot, plus on prend de gens, on grossit l'équipe, plus on grossit l'équipe, plus on a besoin de boulot, on y perd son âme. Et moi, être patron, ça ne m'intéressait pas. Moi, je veux être impliqué dans mes projets du premier coup de crayon au bouquet de fleurs sur la table et au projecteur. Et à un moment donné, dit cul-de-sac, je ne le fais pas. Et avec ma femme, Vilma, qui était mon alter ego, on faisait tout ensemble, on dit, on lâche tout. On lâche tout, on s'en va, on vit autrement. Je ne veux pas de cette vie-là. Et on avait, comme souvent les architectes, on avait su aménager des chambres de bonne, des trucs. On avait un appartement magnifique avec des terrasses, qu'on avait réussi à financer difficilement. On le vend, on prend notre petit paquet et on décide d'aller vivre dans une île grecque où j'avais acheté une minuscule ruine que j'avais restaurée. Et on dit qu'on va changer de vie et nous sommes partis en Grèce.
Alors ce début d'histoire grecque m'a fait penser au poème de Blaise Cendrars, « Tu es plus belle que le ciel et la mer », qui commence comme ça, tout le monde s'en souvient. « Quand tu aimes, il faut partir. Quitte ta femme, quitte ton enfant, quitte ton ami, quitte ton ami, quitte ton amante, quitte ton amant. Quand tu aimes, il faut partir. » C'est un peu ce qui vous a aussi poussé à partir. C'est un peu aussi une histoire d'amour.
Je ne l'ai pas totalement. Je n'avais pas envie de quitter ma femme. Non, vraiment pas. Mais nous sommes partis à deux. Nous sommes partis à deux pour refaire une vie différente. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Le métier tel qu'il se présentait pour moi, au fond, me dégoûte. Il y a des confrères qui se débrouillent très très bien avec de grosses agences. Il y a des exemples de travail magnifique qui sont réalisés par des équipes nombreuses où le patron a insufflé à ses collaborateurs un esprit. C'est une façon de travailler que je respecte. C'est pas la mienne. C'est Gilles Perraudin, mon ami et confrère, qui a trouvé un nom pour la façon dont je pratique le métier. Il nomme ça architecte de campagne, comme il y a des médecins de campagne. Et donc, il fallait partir. Et on est parti en se disant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je fais de l'énergie qui me reste? J'en avais encore beaucoup. Alors, j'écris, voilà. Et on s'installe dans cette minuscule maison grecque.
Mais il y a une période de flottement, je crois. Vous êtes quand même, c'est un bouleversement total dans votre vie, dans votre manière de concevoir la vie. Or, on l'entend depuis que nous nous entretenons, tous les deux, il y a une énergie chez vous, un enthousiasme teinté, non dénué d'ailleurs, de mélancolie. Je m'interrogeais, bon, la Grèce, où vous avez construit quand même au moins 14 villas. Après, une période, vous retapez cette maison avec votre femme Vilma, mais ça reprend
très vite. On s'installe dans cette minuscule maison, mais merveilleuse, que j'avais restaurée à l'ancienne, absolument. Et on se dit, qu'est-ce qu'on fait? J'écris pas, je fais quoi? Et puis, on se balade à pied, à moto, en vélo, dans l'île, on la parcourt dans tous les sens. C'est une très très belle île. On dirait la Corse en miniature. Elle est montagneuse, elle est couverte de végétation. Et puis on commence à s'indigner, on a quelques baraques horribles. Et au bout d'un an et demi de réflexion, je dis, on fait quelque chose. Alors, cessons de râler. Et on s'est mis à étudier l'architecture locale vernaculaire. Je suis passionné depuis mon adolescence par l'architecture de la campagne, par l'architecture des humbles, des paysans. Et donc, on se livre à une étude approfondie. Disons des techniques, de l'esprit de ces maisons des trois îles dites les Sporades, et on décide d'en faire un livre et dans lequel beaucoup d'illustrations, mais aussi une réflexion sur le retour à l'architecture vernaculaire. Et ce livre, chance, je trouve des appuis en Grèce pour l'éditer en trois langues. en pensant qu'on en vendrait quelques-uns. Et en fin de compte, les 3000 exemplaires sont vendus la première année. Les Grecs nous ont fait la fête. Et on vient me solliciter pour donner des conférences avec mon traducteur et interprète grec, un enseignant de l'école polytechnique de Salonique. Et on me demande de faire des maisons. Alors j'ai d'abord dit non, je ne fais plus. Et puis, en fin de compte, je me suis mis à dessiner d'abord une nouvelle maison pour nous. Et ma première cliente, entre guillemets, une survivante de la communauté juive de Salonique, qui m'avait beaucoup attendri en racontant qu'elle avait été abritée, sauvée par les gens du village, de mon village de Glossa. En fait, ma propre histoire, j'ai cédé et j'ai repris goût au travail, à la main, au rapido, à l'ancienne, en suivant le chantier, et enfin, depuis, je l'ai dit, premier coup de crayon jusqu'à la livraison de la maison, et de fil en aiguille, j'ai fini par faire 13 ou 14 maisons, une à la fois, tranquille, avec des artisans, en utilisant la pierre, les matériaux locaux, biosourcés avant même que le nom soit utilisé.
Votre bibliothèque est riche à Skopelos, on peut la voir, si on va vous voir, et la Grèce, je crois que pour vous, c'est aussi Marguerite Yourcenar, les paysages, les mémoires d'Adrien. Est-ce que pour vous, ça dit quelque chose quand vous... Enfin, est-ce que la littérature, les textes, qu'ils soient philosophiques, vous accompagnent dans la création ?
Ouais, alors, mon attachement à la Grèce est ancien. Et il est pas seulement de nature esthétique ou poétique. À la fin de la guerre, où j'avais été dans le maquis, je vous l'avais raconté, le mythe de la résistance au nazisme, au fascisme, c'était extrêmement important dans ma vie. Et nous avions un héros. À 14 ans, mon héros, c'était Marcos Bifiadis. D'ailleurs, j'ai changé mon prénom Marcel, qui m'avait été donné en l'honneur de Marcel Cachin, un des grands papas du parti. Et donc, j'avais changé pour Marc, en l'honneur de Marcos Bifiadis, qui, dans les montagnes grecques, n'avait pas voulu rendre les armes, comme il avait été prévu à la fin de la guerre, la Grèce passant dans le giron de l'Ouest, par exemple, et qui voulait continuer la lutte et faire la révolution. Voilà, et c'était mon héros. Donc c'est un lien ancien, un engagement ancien, puis la littérature, etc. Bon. Et puis, cette population des îles grecques, qui encore très très proche de la nature, de l'autoproduction, ça évoquait pour moi mes paysans de la Corrèze, ça leur ressemblait d'une certaine façon.
Vous êtes un être lucide, vous êtes un homme lucide, Marc. Vous êtes pétri d'histoire, vous êtes pétri de culture. Il me semble que votre lucidité vous fait pointer également dans votre parcours professionnel. Professionnel à votre manière, puisqu'on l'a dit, vous l'avez dit, vous êtes un autodidacte qui travaillait par passion, par amour, et passion beaucoup, enthousiasme, vous êtes porté, vous allez toujours de l'avant, même à votre âge, ce qui est vraiment phénoménal et remarquable. Mais vous sentez, avant même de partir en Grèce et depuis longtemps, dès que vous faites quelque chose, il y a comme une contrepartie qui est la lucidité et... Vous voyez également la vanité de beaucoup de choses que le spectacle contemporain ou passé vous inspire. Cette vanité qui fait que vous prenez la parole devant Mitterrand, vous osez, vous n'avez pas de... Vous prenez des risques.
Je crois que c'est dans ma nature. Oui, prendre des risques et de pas respecter les lois habituelles, être... douter. Au fond, derrière toutes ces révoltes, il y a le doute, la mise en question. Je crois que c'est très très important aujourd'hui où il y a une telle soumission, les comportements, écouter ce que racontent les médias, écouter ce que racontent les réseaux sociaux, tout mettre en doute. C'est pas facile et c'est pas confortable. Mais je crois que le propre même de l'humain, c'est le questionnement, le doute sur ses propres certitudes, les remettre en question. Oui, ça c'est vrai. Oui.
C'est la raison peut-être pour laquelle vous n'avez jamais eu votre carte du Parti communiste.
En tous les cas, pendant 10 jours. Oui, absolument.
On va progressivement aller vers le projet de votre vie aussi, qui résume et qui amplifie encore tout ce que vous avez pu nous donner à voir, à contempler, cette beauté que vous aimez tant, qui est votre projet de l'école maternelle de Sambadia, l'école du centre de la Terre. Un livre décrit avec force photo que vous avez faite aussi vous-même, parce que vous continuez à photographier les visages de ces femmes. D'ailleurs, je crois que vous avez écrit ou dit quelque part qu'une maison, c'est comme un visage. Et cela m'a amené, je me demandais si vous aviez lu Lévinas, vous qui êtes un Emmanuel Lévinas, un grand lecteur, et de ce qu'il dit de cette épiphanie du visage. Un visage, c'est toujours un visage singulier.
C'est une question à laquelle j'ai du mal à répondre. Autant on peut se livrer à des réflexions sur la philosophie de l'architecture, au moment où on est devant le papier, parce que pour moi c'est encore le papier, pas l'ordinateur, on n'est plus dans la théorie. On est dans la résolution de contraintes. Encore une fois, je dissocie la réflexion profonde sur les structures même de la pratique de notre métier et l'action.
Vous privilégiez l'action.
Oui. Je ne vais pas penser au moment où je fais où je conçois une maison, je veux dire, est-ce qu'il y a là un nez ou des yeux ? Non. Non. D'ailleurs, dans ma pratique journalière, j'insiste beaucoup sur le comportement que doit avoir le concepteur. Lorsqu'on a devant soi un bâtiment à concevoir ou un objet usuel, ne jamais se laisser submerger par les affects. Surtout ne pas laisser aller ce qui est une pulsion naturelle pour un créateur. Il a envie que immédiatement, très vite, que la forme soit matérialisée sur le papier, sur l'ordinateur. Surtout pas. Surtout pas. Il faut être comme un yogi. Dès que cette pulsion vient, la repousser loin de soi. Et ne penser qu'aux fonctions. Résoudre les fonctions. Alors résoudre les fonctions, l'une par une. Et chaque fois, encore une fois, que la montée vous submerge pour dessiner, donner une forme, la refuser lentement. Et lorsque les contraintes ont été parfaitement intégrées, elles font partie de vous, les fonctions, la relation avec l'environnement, l'image que votre utilisateur va vouloir donner de lui-même au travers du bâtiment qu'il a commandé. Une fois que tout ça a été parfaitement intégré, à un moment donné, c'est comme un terrain qu'on a labouré. La plante va venir toute seule. Et elle va venir et ce sera la bonne plante. Et elle sera belle.
Oui, parce que vous concevez, y compris les jardins, bien alentour du bâti, etc. Mais n'allez-vous pas jusqu'à, il me semble, jusqu'à aimer à ce point ce que vous bâtissez, que vous gardez parfois les clés des maisons que vous construisez?
Pas parfois. Mes maîtres d'ouvrage, pour pas dire mes clients, j'aime pas le terme, sont tous... Allez, quand même, c'est rare, sont tous mes amis, et je dis parfois que nous partageons les maisons, ils me laissent les clés, je les vois des années suivantes. J'ai inventé une sorte d'aphorisme.
Allons-y.
Je dis que les belles choses n'appartiennent pas seulement à ceux qui les paient, elles appartiennent à ceux qui les ont conçues et à ceux qui les aiment.
Je voudrais parler de l'espace, vous êtes très... Enfin, voilà, l'espace est une notion qui, évidemment, importe chez vous. Et il y a une forme spatiale que vous aimez particulièrement, et ça me fait penser à cette Grèce qui vous accueille maintenant, c'est le patio. Le patio est, par ailleurs... Alors, c'est une question un peu longue, mais peut-être faudrait-il plus de temps que nous n'en avons pour y répondre. Je m'interrogeais sur... vous reconstruisez sur la forme de la ruine chez vous. Est-ce que c'est important, cette image très chère au paysage romantique, etc. Alors, patio et ruine, qu'est-ce que ça vous dit, Marc Held?
Alors, je crois que l'atrium, le patio qu'on trouve dans les architectures anciennes, toutes les architectures anciennes comportent des patios. C'est une façon de s'isoler de l'extérieur, d'abord, de créer une sorte de mini-univers dans lequel un groupe familial va pouvoir vivre sans se soucier de ce qui se passe autour. Et ça a une deuxième vertu. Le patio joue un rôle important dans l'alternance des pleins et des vides, dans ce qu'on éprouve au plus profond de soi-même. La perception des espaces est magnifiée par les contrastes. Par exemple, pénétrer dans une voûte gothique en franchissant le narthex, l'effet de libération est d'autant plus fort qu'on est passé par un espace restreint. C'est un exemple simple, mais lorsqu'on commence à savoir, à percevoir les effets de l'espace, le concepteur peut en jouer, en faisant passer par des états différents de compression, d'extension. Je disais que lorsqu'on est dans l'intérieur d'un bâtiment, l'œil permet à l'observateur ou à celui qui utilise le lieu, littéralement, de se déplacer dans cet espace au travers de son œil et de jouir de cette espèce de voyage en trois dimensions.
La 3D qui ne vous est pas indifférente non plus. Alors, on va aller en Afrique maintenant. Hein, on est tout à fait contemporain, Marc, de votre périple de vie pour la création de cette école de Sambadia, l'école du centre de la Terre. Et j'aime à penser que pour vous, c'est peut-être un modèle réduit de ce que serait une ville, l'utopie d'une ville, une ville utopique selon vos vœux. Et je crois que vous avez une sorte de table de la loi pour concevoir ce que serait l'architecture pour vous aujourd'hui, une architecture biosourcée. Vous avez employé ces termes. J'ai parlé de biocroissance, c'est un terme que vous utilisez ensuite. Est-ce que vous voulez nous lire un extrait des lettres à Géry que vous avez publiées il y a maintenant longtemps ?
Je crois que ça résume bien en quelques mots ce qui devrait être les principes fondamentaux de la conception architecturale aujourd'hui. Je m'adresse à un Grec qui vit en Australie depuis une dizaine d'années, qui vient tous les 8-10 ans revoir sa famille et qui a été élevé comme un petit va-nu-pied de la campagne dans mon île grecque de Skopelos. Je lui demande, mais quand vous construisiez les maisons, vous faisiez comment ? Et il répond, tu regardes le terrain, tu observes la pente, tu apprends d'où vient le vent, le soleil, aux différentes saisons de l'année, tu interroges les vieux pour savoir d'où souffle le vent froid, le vent chaud, l'humide, celui qui sent bon, celui qui donne soif. Tu t'imagines dans la pièce, avec les ouvertures. Tu voudrais voir cette montagne ? Tu créeras là une fenêtre. Le matin, en hiver, cet arbre qui perd ses feuilles ne te portera pas ombre. Et là, tu mettras le banc en été parce qu'il y fait toujours frais. Les pierres sont disponibles sur place et le bois ne manque pas. Ce qu'on ne trouvera pas sur le terrain, on le fera venir, tant pis. Tasso était alors comme un témoin vivant de cette longue tradition de constructeurs à laquelle j'ai tant souhaité appartenir. Messager innocent, il me confirmait la parole, par la parole, un dire ancestral dont j'ai déjà eu le privilège d'avoir la révélation.
Alors demain, nous poursuivrons cette conversation en parlant peut-être, si vous le voulez bien, de ce que représente une ville, y compris une ville en modèle un peu réduit, que serait cette école de Sambadia avec ses passages. On en parlera demain, si vous voulez bien, Marc Held. C'était À Voix Nue, une proposition d'émission de Sylvie Goudbaron, réalisation Thomas Duterre, prise de son Laurent César, chargé de programme Daphné Abgral. Une série disponible sur franceculture.fr et sur l'application Radio France.